Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. On estime qu'en France, le chômage provoque près de 200 suicides par an. C'est ce qu'il ressort d'une étude scientifique de l'INSERM publiée par l'Institut de veille sanitaire début janvier. Étude qui cherche à analyser les liens entre la hausse du chômage et les suicides. Être licencié, ne pas parvenir à trouver un travail, ne plus arriver à payer son loyer, ses charges. Le chômage menace le psychisme, l'intégrité physique, l'univers relationnel de la personne. La souffrance des chômeurs est d'ailleurs difficile à la fois à expliquer mais aussi à comprendre pour l'entourage. Sentiment d'isolement, troubles du sommeil, anxiété, addiction, risque de suicide. On a pourtant l'impression que la santé des chômeurs n'intéresse personne. Pas d'études sur le sujet, pas de prise en charge, pas de prévention. Alors que sait-on des souffrances psychologiques et physiques des chômeurs? Quelle prise en charge médicale faudrait-il mettre en place? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le professeur Michel Debout. Il est psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé. Il vient de publier Le traumatisme du chômage, alerte sur la santé de 5 millions de personnes. C'est aux éditions de l'Atelier. Si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Haruna Ouedraogo, qui est chef du service de psychiatrie au CHU de Ouagadougou au Burkina Faso. Et en fin d'émission, comme tous les jeudis, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano. Professeur Michel Debout, bonjour.
Bonjour.
Vous commencez votre livre en disant « La santé des chômeurs n'intéresse personne ». Effectivement.
Ben, c'est un constat. Malheureux, mais c'est un constat. Il y a plus de 20 ans, dans un avis du Conseil économique et social, dont j'étais l'auteur, et qui concernait la prévention du suicide, j'expliquais que quand on perd son travail, on perd la médecine qui va avec le travail. Et que c'était un paradoxe, puisque au moment de cette perte, et la perte, c'est une expérience très négative, un peu comme si on arrachait quelque chose à soi sur le plan psychologique. Eh bien, à ce moment-là, où on peut être en risque de souffrance psychologique, eh bien, on perd tout lien avec la médecine.
C'est comme ça, on perd son médecin du travail.
On perd son médecin du travail et symboliquement, on perd le regard que la société porte sur votre santé. Votre santé n'intéresse plus personne. Leur santé n'intéresse plus personne. Et je suis un peu en colère parce que 20 ans après, rien n'a bougé. Et ce que je dis ce matin, je n'ai cessé de le répéter pendant les années, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu une évolution, c'est par rapport à la réalité du suicide. Vous venez de citer des chiffres, mais c'est la première fois qu'une étude cite ces chiffres. Or, le chômage, il augmente depuis 20-30 ans. Donc, c'est bien la preuve qu'il a fallu attendre cette année pour que les chiffres soient publiés.
C'est quand même la crise économique qui a fait que d'un seul coup, on s'est dit, mais il faut peut-être essayer de voir quel est son impact, c'est ça?
La crise, qu'est-ce qu'on en a fait de cette crise? On continue à dire que c'est une crise économique, que c'est une crise sociale, financière, mais quand est-ce que l'on dit que c'est une crise sanitaire? Quand est-ce que l'on dit aussi que c'est une crise de la relation humaine? Ça, on ne le dit pas. Donc si on ne commence pas à le dire, alors on continuera à voir de la dégradation de la santé de personnes autour de nous. Et plus leur santé se dégradera, moins ils seront en capacité de retrouver un emploi. Donc la proposition que je fais, ce nouveau regard que je propose, c'est aussi pour lutter contre le chômage. Parce que si vous n'avez que des gens qui sont en souffrance, ils ne pourront plus être en état de travailler. Donc vous voyez qu'il ne faut pas opposer, par exemple, ce qui serait de la santé des chômeurs et ce qui serait leur employabilité. J'aime pas du tout ce mot, mais enfin, c'est celui qu'on emploie. Au contraire, ça va ensemble.
On reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur les propositions que vous faites, justement, sur ces questions de suivi de santé des chômeurs. Il y a donc, on a constaté une augmentation du risque de suicide avec une augmentation du chômage. Est-ce que parallèlement, par exemple, s'il y a une baisse du chômage, on constate une baisse du nombre de suicides, ce qui expliquerait bien qu'il y a une corrélation entre les deux?
Oui, et ça a été constaté, et j'ai fait une étude qui a été publiée en 2008-2009. Le chômage, le taux de chômage provoque une augmentation du taux de mortalité, mais aussi de tentatives de suicide, et on l'avait déjà observé lors de la crise économique de 1929. C'est pour ça que j'avais alerté Dès le début de la crise, en 2009, j'avais alerté sur ce risque-là. Je demandais la création d'un observatoire national du suicide. En 2009, il a été créé, et heureusement
tout
d'ailleurs...
récemment quand même.
En 2013. En 2013. Et la crise, on s'est installé dans la crise. À tel point que je considère que le mot crise ne correspond plus à ce que les gens vivent. On est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on sait de quelle société on vient, mais on ne sait pas où l'on va. Et ça, l'entre-deux, ça provoque de la détresse. L'entre-deux, l'image, c'est le détroit entre deux rives. Et détroit et détresse, c'est un mot qui a la même étymologie. C'est pas surprenant, quand on fait des sondages, que les Français, mais pas seulement les Français, se sentent en détresse. Parce que ça correspond à ce moment où on s'interroge sur l'avenir. Et le chômeur s'interroge.
On avait fait une émission avec vous, d'ailleurs, au tout début de la crise économique, de savoir justement s'il allait avoir un impact sur la santé mentale et sur ces questions de suicide. Quels sont les problèmes de santé? On a parlé du suicide, mais sans aller, j'allais dire, jusqu'au suicide, il y a d'autres problèmes de santé. J'ai cité l'anxiété, mais pas que.
Mais l'anxiété, c'est un état de stress post-traumatique. C'est pour ça que j'insiste sur ce traumatisme provoqué par le moment où on perd l'emploi. On parle presque pas de ce moment-là. Enfin, dans toutes les publications, etc. On parle des chômeurs. Mais avant d'être chômeurs, ils sont licenciés. Ou bien alors, c'est des commerçants, des artisans qui ont déposé le bilan. Ou bien alors, ce sont des agriculteurs qui ont fermé leur exploitation.
Ça veut dire combien de mois de souffrance avant d'en arriver là, c'est ça?
Oui, parce que c'est un moment presque d'anéantissement. Un moment d'anéantissement qu'on peut vivre, par exemple, dans une agression, qu'on peut vivre dans un accident, qu'on peut vivre lors d'un cataclysme. Mais regardez, chaque fois qu'il y a des cataclysmes collectifs, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que fait la société? Tout de suite, on se mobilise, la presse est là, on organise une cellule psychologique d'accompagnement, et tout le monde trouve ça très bien. Mais tous les chômeurs, enfin tous ceux qui ont perdu, qui sont en train de perdre, avec le mot « perte », leur emploi. Qu'est-ce qu'il y a autour d'eux? Personne. C'est le silence.
Je vous propose d'écouter le témoignage d'Alexandre. Il a 42 ans, il est marié, il a deux enfants de 8 et de 5 ans. Il a connu plusieurs périodes de chômage qui ont eu des conséquences sur la qualité de son sommeil. D'ailleurs, son médecin traitant à l'époque lui avait prescrit un somnifère et un anxiolytique pour lutter contre ses insomnies. Il est aujourd'hui en poste comme commercial à l'international. Ça veut dire qu'il a retrouvé du travail. Il revient sur les trois périodes de chômage qu'il a vécues au cours de sa carrière, en commençant par nous raconter d'ailleurs comment on l'a licencié la dernière fois, des propos recueillis par Pauline Mocor.
Donc je travaille chez Lurem, qui est une usine de fabrication de machines à bois, et j'étais responsable export sur les pays de l'Est. Donc suite à la crise de 2009, je me suis retrouvé au chômage.
Comment on vous a annoncé?
C'est mon directeur commercial qui m'en a parlé en tête à tête. Ensuite j'ai vu le directeur général, mais ça s'est fait assez vite.
Qu'est-ce qui a été le plus dur?
Le plus dur, c'est de ne pas voir son travail reconnu. J'ai fait beaucoup de travail de prospection, j'ai eu beaucoup de contacts à l'étranger, j'ai fait beaucoup de salons, j'ai donné beaucoup plus que 35 heures. Donc il y avait vraiment une grande implication de ma part, et en retour, les faits ont été plus forts que moi. J'ai été une autre fois mis à la porte du jour au lendemain.
Qu'est-ce qui s'était passé précisément?
C'était un pont, on m'a fait venir un vendredi, spécialement au siège. Donc le directeur commercial m'a fait venir pour m'annoncer le matin, au bout d'une heure de réunion, qu'il me licenciait. Quoi. Et il voulait que je quitte la société après le déjeuner. Quoi. Là, ça avait été très violent parce que justement, je ne m'y attendais pas. Alors là, je me suis retrouvé tout à fait impuissant. C'était même pas ma compétence qui était en question. C'était moi en tant qu'être humain qui était remis en cause. On me jetait.
Mais là, vous vous êtes senti humilié?
Oui, tout à fait. Complètement KO, oui. On est à terre. Je me voyais complètement en incapacité d'annoncer à mon entourage mon licenciement. Il y a une certaine part de culpabilité où on se sent coupable.
Mais de quoi?
De quoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand on n'a pas cette confiance avec sa direction dans la société dans laquelle on est, on est complètement remis en cause. Parce que à cette époque-là, j'ai un enfant qui doit avoir 1 ou 2 ans, ma femme ne travaille pas non plus, on vit seul à Paris avec mon seul salaire. Et là, se retrouver au chômage, c'était assez difficile. Je me voyais pas rentrer dans l'après-midi et lui annoncer comme ça. Je voulais pas le faire subir à un compagne.
Est-ce que ça a pu susciter des tensions dans votre couple ?
Des angoisses plus que des tensions. Au quotidien, c'est pas évident d'être tous les jours à la maison. Aujourd'hui, on cherche un emploi plus que par Internet, pratiquement. Donc, faut être sur son ordinateur. C'est pas en allant au Pôle emploi où il n'y a même pas où s'asseoir. La recherche, elle devient quasiment virtuelle. Alors que le monde du travail, c'est le monde réel. C'est pour ça que moi, je pense utile de pouvoir intégrer des associations.
Vous vous êtes senti très seul ?
Ah oui, complètement, oui. Parce que chercher un emploi, avoir des entretiens qui n'aboutissent pas, on se met à douter de soi.
Est-ce que parfois vous avez senti comme des reproches dissimulés de votre entourage ?
Il peut y avoir une incompréhension de personnes qui sont dans l'emploi ou qui l'ont toujours été.
Qu'est-ce qui vous blessait dans leurs paroles ?
Oui, c'est plus les plus implicites et sous-entendus. Par rapport aux études que j'ai pu suivre, par exemple, moi j'ai fait 5 ans d'études, je suis linguiste de formation. J'ai fait un DSS de relations internationales et on me demande, mais en fait, tes études, ça conduit à quoi ? Alors que, bon, moi je parle 4 langues et j'ai toujours travaillé dans le commercial en lien avec l'étranger.
Est-ce qu'il y a un moment où votre recherche d'emploi elle était devenue obsédante ?
Non. Je m'imposais une vie sociale, je continuais à aller au cinéma avec des amis ou je cherchais à clarifier les temps. Le week-end, c'est fait pour se reposer. Enfin, on ne va pas passer son temps sur Internet à regarder les postes. Voilà. Je m'imposais une vie quasiment normale.
Est-ce que pour vous, ça a été une période qui vous a appris des choses sur vous-même ?
La première fois que je suis resté longtemps au chômage, ça m'a permis de reconstruire ma vie. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans une démarche, je vais dire carriériste, où je ne pensais qu'au travail. Suite à ça, justement, je me suis retrouvé au chômage, et c'est là que je me suis marié et que j'ai fait des enfants. J'avais toujours espoir que je retrouverais un emploi. La question se pose toujours de savoir dans quelles conditions est-ce qu'il peut être accepté pour retrouver un emploi.
Et vous, justement, qu'est-ce que vous avez accepté ?
J'ai essentiellement accepté de revoir mon salaire à la baisse, 10 000 euros à peu près, 20 ou 30% de baisse, en échange d'une proximité de mon lieu de travail. Aujourd'hui, je travaille à 10 minutes de chez moi. Et mon épouse aussi maintenant travaille, donc c'est beaucoup plus simple. Et une qualité de vie, ça n'a pas forcément de prix non plus.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de l'impact du chômage en termes psychiques. Professeur Michel Debout, je vous ai vu prendre plein de notes pendant ce témoignage d'Alexandre. D'abord, il insiste sur la question du choc de l'annonce que vous aviez commencé à évoquer. Ça, c'est déjà le premier choc de départ.
C'est authentiquement ce qu'on appelle dans notre jargon un moment traumatique.
Un syndrome de stress post-traumatique.
Et qui provoque un syndrome de stress post-traumatique, qu'il a parfaitement décrit, et notamment la tendance anxieuse au départ. Mais il a dit quelque chose d'important. Dans le deuxième licenciement, d'abord cette façon absolument scandaleuse de le traiter. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'employeurs, les salariés sont des variables d'ajustement, et ça, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Les variables d'ajustement, c'est des contraintes économiques, commerciales, etc.
Mais pas des hommes.
Les ressources humaines, ça ne devrait pas être traité de la même façon. Il y a une obligation pour l'employeur, et c'est très bien, de protéger la santé de ses salariés. Cette obligation-là, elle doit se poursuivre. Quand on le licencie, on prend une responsabilité, y compris par rapport à sa santé, quand on décide de le licencier. Et si ce licenciement est justifié, encore faut-il s'en expliquer et qu'il comprenne au moins pourquoi, que c'est pas lui qui est en cause. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, ce qu'il a dit, notamment la culpabilité, eh bien, elle va faire de l'effet. Elle
peut... La négation du travail fourni avant aussi.
La négation du travail, et puis ce moment de chaos. Il a utilisé le terme chaos. Vous voyez, le chaos, c'est toujours, quand on a un traumatisme psychologique, ça renvoie symboliquement à la mort, au chaos, à la destruction. Eh bien, il l'a vécu. Et s'il a pu se récupérer. C'est très intéressant aussi ce qu'il a dit, parce qu'il a maintenu le lien social. Ce qui veut dire que la question, elle n'est pas seulement médicale, même si je la pose aussi en termes médicaux, mais j'insiste sur la dimension sociale. Plus le chômeur s'isolera, moins il pourra récupérer. C'est ce qu'en d'autres termes, on appelle la capacité de résilience. Quand il dit il y a un avant et un après, on le dit aujourd'hui pour d'autres choses, mais après, ça peut être après positif, mais ça peut être un après qui dégrade, qui continue à dégrader, et ça alors, il y avait véritablement le risque de dépression sévère et le risque même de mort par suicide.
Ne pas rester seul, hein, se faire aider, c'est d'ailleurs un des premiers conseils. Il y en a Brice qui nous appelle du Nigeria. Brice, bonjour, il a un témoignage à apporter, on vous écoute Brice.
Bonjour, pardon.
Oui.
En fait, moi, les difficultés que je rencontre au quotidien, les gens, c'est que j'ai perdu la confiance en moi. Il y a cela longtemps que j'ai pas pu obtenir un emploi tel que je voulais. Pourquoi? Parce que, déjà, il est très difficile d'avoir un emploi au Cameroun, dû à la corruption. Pour avoir un emploi digne de ce nom, il faut déjà d'abord monnayer. Et cela, ça varie entre 150 000 à 1 million. Ça dépend du style de concours. Donc, ce n'est pas l'excellence qui prime, généralement.
Et est-ce que c'est pour ça que vous avez été obligé de partir au Nigeria, finalement, pour trouver du travail?
Bien évidemment, oui. Si j'étais mieux chez moi, je n'aurais pas trouvé nécessaire de me déplacer. Et il y a aussi un regard que les gens ont, la société a à notre égard. Il est très difficile. Par exemple, pour moi, dans mon cas, je suis devenu timide. J'ai perdu confiance en moi. Et parfois, je me dis, ça ne vaut même pas la peine, je ne sais pas trop. Et donc, c'est un peu là les difficultés. Mmh.
Et au Nigeria, finalement, vous avez trouvé du travail ou vous avez créé votre propre emploi? Qu'est-ce que vous faites?
Bon, en fait, je n'ai pas trouvé un emploi, on peut dire ainsi, mais je fais dans le commerce des voitures. Ce ne sont pas mes voitures, bien sûr, je travaille pour quelqu'un.
Je voudrais vous faire réagir à ça, professeur Michel Debout. Brice l'explique très bien, hein, ça l'a rendu timide, perte de confiance en soi. C'est ça, la difficulté de trouver un emploi?
La perte de confiance en soi fait que on pourra plus trouver, justement, parce que l'employeur... Il veut employer quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens intellectuels, de ses moyens psychologiques. On sait bien qu'aujourd'hui, il s'agit plus simplement de faire son travail, mais d'être à son travail. Alors, regardez pour tous les métiers, y compris les métiers de relations avec les publics. On apprend même aux caissières à sourire. Comme quoi, c'est bien leur être qui doit être là. Et si cet être dont je parle n'a plus confiance en lui, alors il pourra pas être employé. Et puis, je vais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit, par rapport à la corruption. Oui, mais il y a une réalité, c'est que un emploi, pour moi, c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans le temps, qui permet justement de construire son avenir en tout cas à moyen terme. Et qu'est-ce que on entend aujourd'hui? C'est que au nom de la lutte contre le chômage, on va multiplier les emplois sans contrat, ou en tout cas des contrats très précaires. C'est-à-dire qu'on va précariser tout le monde parce qu'on veut lutter contre le chômage. Mais c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Si le chômeur est en difficulté, et notamment, et ça a été dit, en perte de confiance, en perte presque identitaire, c'est parce qu'il peut plus s'inscrire dans le temps. L'humain a besoin de temps devant lui. Avec ces contrats-là, on va complètement casser la possibilité que nous avons tous aujourd'hui, justement, de pouvoir vivre.
C'est-à-dire construire à long terme. On se retrouve, si vous voulez bien, professeur Michel Debout, dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de l'impact du chômage. Merci beaucoup, Brice, pour votre témoignage du Nigeria.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue. bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact du chômage sur la santé mentale. On en parle avec le professeur Michel Debout, qui est psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé. Il vient de publier Le traumatisme du chômage, alerte sur la santé de 5 millions de personnes. C'est un livre qui paraît aux éditions de l'Atelier et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler. Vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire, au 33 1 84 22 75 75. Au téléphone, Joseph qui nous appelle de Conakry en Guinée. Joseph, bonjour.
Ah, bonjour Claire.
Je crois que vous êtes un jeune qui a du mal à trouver du travail, c'est ça? On vous écoute, Joseph.
Ouais, effectivement, bon, voilà qu'à 23 ans, je n'ai toujours pas eu de travail et je suis toujours sous le toit de mes parents. Et que je vois qu'à ce niveau, je commence à subir des frustrations dans la famille. On me dit à ton âge, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Bon, j'arrive à me sentir inutile, j'arrive à avoir une vie dans moi. En fait, je vois que mes parents ont investi et tout, et voilà qu'à la fin de ma licence, je n'ai toujours pas de travail, tout ça. Bon,
c'est ça, vos parents ont investi parce qu'ils vous ont permis de faire des études?
Oui, oui.
Et c'est compliqué pour vous, du coup, de ne pas trouver de travail. Professeur Michel Debout, une réaction par rapport à ça, et c'est très important ce qu'aborde Joseph, sur la question de l'entourage qui renvoie une image du mais bouge-toi, cherche du travail.
Ça rajoute à la culpabilité, évidemment. Comme tout événement traumatique, et particulièrement lorsqu'il s'agit du chômage et du licenciement ou de la perte d'emploi, il y a un moment où la victime, puisque c'est une victime, retourne la situation contre elle, comme si c'était elle qui avait voulu cela. C'était à cause d'elle qu'il y avait ce chômage, ce licenciement. Et si la famille n'est pas protectrice, souvent elle l'est, il faut le dire. Souvent, elle a aussi les moyens de l'être. Mais au bout du temps, ces moyens s'effritent parfois. Et puis,
la famille se lasse.
La famille se lasse. Et la famille ne comprend plus. Pas plus d'ailleurs que ne comprend le chômeur lui-même. C'est-à-dire, il y a une double incompréhension. Tout le monde est dans l'incompréhension. Et là, le risque, c'est qu'on ne se parle même plus. Ou qu'on se parle par... sans mots, mais en faisant comprendre quand même. Et le regard, les attitudes. Bref, enfin, bouge-toi.
Quoi. Oui, c'est bouge-toi. Ça. Et quel conseil on peut donner à Joseph? Enfin, vous pouvez-vous donner à Joseph?
Eh bien, le conseil qui, d'abord, qu'il se rappelle que c'est pas de son fait, qu'il parle, justement. Qu'il aborde carrément le sujet avec ses parents, etc., pour qu'ils en parlent ensemble. Pour que de cette incompréhension, on fasse quelque chose de compréhensible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Parce que ce qui m'arrive, qu'est-ce qui nous arrive? Ce nous, c'est le nous familial, mais ça pourrait être aussi le nous de notre pays. Qu'est-ce qui arrive à ce pays? Est-ce que nous, collectivement, et là, alors, le système, le milieu associatif, même les responsables, devraient pouvoir apporter cette réponse que j'appelle dans cet ouvrage. C'est un regard que la société porte sur les chômeurs, qu'il faut aussi transformer.
Changer. Donc parler, on l'a bien compris. Merci beaucoup Joseph pour ce témoignage. Bon courage à vous. On a au téléphone le professeur Haruna Ouedraogo, qui est chef du service de psychiatrie au CHU de Ouagadougou au Burkina Faso. Professeur Haruna Ouedraogo, bonjour.
Oui, bonjour Claire et donc.
Le chômage est très fréquent sur le continent africain, particulièrement pour les jeunes. Ce qu'on vient d'entendre de Joseph, jeune diplômé qui a du mal à trouver du travail, est une situation très fréquente sur le continent africain. Justement, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Comment les jeunes burkinabés réagissent-ils face à ce chômage?
Ben, de la même manière qu'a essayé d'expliquer l'auditeur de Guinée. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir d'emploi ou d'emploi constitue une source de dévalorisation assez importante. Et cela est d'autant plus accentué qu'il s'agit de garçons. Et en plus, si le hasard, en fait, du rang de naissance, c'est qu'il s'agit d'aînés, les attentes sont encore plus importantes. Et donc, le sentiment d'être dévalorisé au vu de la société est quand même assez important. Et ce qui est malheureusement source de difficultés qui peuvent déboucher sur des problèmes sur le plan psychopathologique.
Et justement, quels sont les problèmes qui en découlent? Qu'est-ce que vous voyez, vous, justement, en consultation?
Alors, il y a à peu près les mêmes choses qu'on retrouve partout, c'est-à-dire que nous rencontrons surtout des états de dépression, souvent qui peuvent prendre des allures assez graves. Il y a également l'abus d'alcool ou d'autres substances psychoactives. Et il ne faut pas également négliger la part de ce qu'on appelle maladie ou affection psychosomatique, qui sont parfois réveillées ou aggravées en fait par cette position de chômage et qui sont souvent malheureusement non diagnostiquées parce que ce sont des gens qui vont avoir des plaintes somatiques, qui vont consulter des médecins organicistes et qui parfois ne sont pas diagnostiqués comme
tel. Je voudrais juste faire réagir le professeur Michel Debout sur une chose que vous venez d'aborder, c'est la question de l'alcool et des addictions. Effectivement, il y a un risque à essayer de trouver un calmant, en gros, professeur Debout.
Pour toute situation de stress post-traumatique, il est connu que le recours à un produit, alors l'alcool, mais pas seulement, mais des médicaments, paradoxalement, parfois prescrits par un médecin, prescrits par un médecin, qui sont retournés dans leur usage, c'est-à-dire c'est pas pour essayer de sortir de la situation, au contraire, ça enlise dans cette espèce d'état de perte identitaire. Je crois que notre collègue a très bien dit, notamment il a parlé de l'aîné, c'est bien une identité qui est mise en cause. Et c'est ça que c'est qui rend la gravité de cette situation. Et ce produit-là, au lieu de permettre une sortie de cet état de stress, va avoir comme effet une aggravation des thématiques dépressives. L'alcool, on le dit jamais assez, est dépressiogène. Plus on boit, plus on se coule dans la dépression. Alors que sur le moment, l'alcool donne un petit élan.
C'est ça quoi ? Ça a un effet un peu calmant ?
Alors, non, ça a un effet un peu euphorisant au départ, et puis après, au contraire, c'est dépressiogène, c'est-à-dire que ça met la personne en risque plus important encore d'être déprimée. Mais la question qui est posée, et notre collègue l'a parfaitement dit, ces jeunes qui viennent à la consultation, ils viennent à la consultation. Donc ils font une démarche. Ils demandent de l'aide d'une certaine façon. Ils ont compris qu'ils n'allaient pas bien. Mais tous les autres qui ne font aucune démarche, qui ne rencontrent aucun médecin, dans quel état sont-ils ?
Professeur Ouédraogo, j'imagine d'ailleurs que la majorité des gens ne viennent pas forcément jusqu'à vous. C'est assez rare qu'il y ait une démarche de venir voir le psychiatre.
Oui, hélas, ce que nous voyons n'est qu'une toute petite partie, ça c'est sûr. Beaucoup de jeunes, d'abord au chômage, n'ont pas les moyens de venir en consultation. Et deuxièmement, ce serait encore une double stigmatisation qu'en plus du fait d'avoir perdu son emploi, il se retrouve, devant le psychiatre. Donc tous ces faits-là vont concourir à une sorte de sous-représentation en fait
et de déni. Professeur Ouédraogo, restez avec nous parce qu'on a justement Anne qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Vous parliez tout à l'heure de la somatisation des gens qui se retrouvent au chômage. Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez appelé parce que vous aviez justement envie de témoigner de votre situation. On vous écoute, Anne.
Oui. Alors, je suis au chômage depuis bientôt 4 ans. J'ai 50 ans bientôt également. J'aurai 50 ans au mois de février. Et je cherche désespérément un emploi. Mais ce que je voudrais... Mon intervention, c'est surtout par rapport aux maladies. Aux maladies qu'un chômeur peut développer et qu'on ne prend pas forcément au sérieux.
Qu'est-ce qui vous arrive, justement ? Quelles sont les maladies que vous développez, là, en ce moment ?
Alors, j'ai des douleurs à l'estomac, régulièrement. Je suis allée à l'hôpital, on a fait des radios, on n'a rien trouvé. On dit, non, votre estomac se porte bien, puis retournez. Et puis, j'ai des articulations qui ont commencé à s'enfler, qui me font mal. C'était très douloureux à un moment donné, mais là, ça s'est apaisé. Et puis, j'ai des violents maux de tête régulièrement. Parfois, c'est des coliques. Et à chaque fois que je vais faire un examen, on ne trouve presque rien. Je vais dire quoi ? On ne trouve pas. On ne trouve pas de maladie. Et ça fait qu'autour de moi, on pense que c'est parce que je suis sans emploi que je crée ces maladies. Et progressivement, je me suis isolée parce que ma famille a été, je vais dire, m'a abandonnée, je vais dire comme ça. Parce qu'avant le chômage, je supportais ma famille, je venais en aide à tout le monde. Mais moi, depuis que je suis au chômage, plus personne ne vient chez moi, plus personne ne s'intéresse à moi. C'est mes amis qui s'intéressent à moi, c'est mes amis qui m'apportent de l'aide, quoi. Et j'avoue qu'on a des idées et suicidaires à certains moments, parce que moi, je comprends aujourd'hui pourquoi quelqu'un peut se suicider parce qu'il n'a pas d'emploi. J'y ai pensé, même si je disais tout à l'heure à la dame qui m'a répondu au téléphone que je ne pourrais pas passer à l'acte. La vie est très précieuse, je pourrais supporter encore. Mais c'était mon témoignage.
Tout à fait. Et je pense que les deux médecins qu'on a autour de nous en plateau et au téléphone au Burkina Faso ont certainement des choses à vous dire. Juste, Anne, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans tous les médecins que vous avez consultés, est-ce que vous avez finalement pensé à un moment aller voir un psychiatre?
Je crains de voir un psychiatre. Je suis bloquée par rapport à un psychiatre. On m'en a proposé. Et moi, je
ne
voudrais pas rencontrer de psychiatre.
Ouais. Alors,
je travaille moi-même.
D'accord. Alors, on en a deux avec nous aujourd'hui. J'espère qu'ils vont vous réussir à vous convaincre. Parce qu'un psychiatre, vous savez, tout simplement, ça permet juste d'aider. Professeur Michel Debout, et après, je demanderai au professeur Ouédraogo, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anne?
J'ai envie de lui dire qu'elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Elle est traumatisée. C'est pas du tout pareil. Et tous, à un moment donné, face à un événement, on peut être traumatisé par l'événement. Parfois, c'est un pays tout entier qui est traumatisé. Donc, elle n'est pas malade, mais elle a besoin, à un moment donné, parce qu'elle souffre de cet événement, de sa situation. Elle l'a très bien expliqué. Elle a besoin de soutien. Le psychiatre, c'est pas celui qui soigne seulement les maladies, c'est celui qui permet aux personnes de reprendre mieux courage. Et je vais insister sur quelque chose qu'elle a dit qui est essentiel. Elle a dit, la vie est précieuse. Eh bien, qu'elle continue à penser que la vie, que sa vie est précieuse. Voilà le meilleur des remèdes. Mais qu'elle puisse en parler. Alors, malheureusement, elle dit aussi que son cercle familial s'est délité autour d'elle, que heureusement elle a encore quelques amis, et c'est pour ça que la vraie réponse, elle est médicale, psychologique, mais elle est tout autant collective, elle est humaine, elle est dans le lien humain qui permet de retrouver confiance et de retrouver une place dans la société. Parce que parfois, c'est parce que on est déjà mort socialement, relationnellement, psychologiquement, qu'on se suicide, et c'est pas parce que on se suicide qu'on va mourir.
Tout à fait. Professeur Ouédraogo, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anne?
Alors, deux commentaires. Le premier, c'est que il y a visiblement une réaction négative de la part de l'entourage, et qui, malheureusement aussi, est d'observation courante. C'est-à-dire qu'elle a perdu un statut, puisqu'elle était salariée, elle avait un revenu, elle avait un certain nombre de capacités. Maintenant qu'elle est au chômage, du coup, en fait, elle ne peut plus maintenir, n'est-ce pas, ce statut. C'est qui, forcément, entraîne tout un ensemble de chaînes de réactions. Et le deuxième commentaire, c'est justement la manière dont elle réagit. Il y a une réaction qui est de l'ordre somatique chez elle. Hein. Elle décrit un certain nombre de manifestations réactionnelles. Alors, il faut savoir que...
Je vous interromps, professeur Ouédraogo. Les douleurs au ventre sont assez symptomatiques, finalement, d'un stress?
Ah ben oui, tout à fait. Chez certaines personnes, oui, ça peut se manifester sous cette forme-là. C'est pas bien grave, mais je pense que c'est extrêmement important qu'elle puisse aller consulter un psychiatre. Et surtout aussi, pouvoir avec le psychiatre régler en fait la question de manque de confiance en elle-même et également de tendance un peu à l'isolement. Elle risque un peu justement de rentrer dans un cercle vicieux. Donc il est quand même important de voir un psychiatre pour pouvoir parler plus en détail.
Et le docteur Catherine Solano a envie d'en rajouter encore.
Oui, je voulais juste rajouter une petite couche là-dessus, c'est que Anne disait, j'ai pas envie de voir de psychiatre. Moi, d'abord, je voudrais lui dire, les psychiatres sont, d'après moi, des gens formidables qui voient un métier merveilleux. Et puis, il faut savoir que on va pas du tout voir un psychiatre parce qu'on est fou, parce que beaucoup de gens pensent, on y va parce qu'on est fou. Tout le monde va se dire, elle est folle. On va voir un psychiatre parce qu'on souffre. C'est un médecin qui vous aide à souffrir moins. Et là, votre corps, il souffre. souffre et il l'exprime par toutes sortes de maux de tête, d'articulations du ventre. Si vous en parlez, si vous avez du soutien, bah, votre corps, il n'aura pas besoin de faire des signaux d'alarme. Vous aurez moins mal dans votre corps et la douleur, elle sortira en parlant.
Anne, vous avez envie de réagir?
Je pense peut-être qu'après cet entretien, j'aurai fait ma séance chez le psy.
Non, on ne va pas remplacer, Anne.
Là, mais je dis, je ne souffre pas. Honnêtement, je ne souffre pas et je ne suis pas morte, moi, professionnellement. Je me sens encore capable de faire beaucoup de choses. Je ne suis pas découragée.
Oui, vous avez encore du courage. Oui, on l'entend dans ce que vous dites, Anne.
C'est très bien, c'est très bien.
Seulement,
continuez.
Je veux comprendre d'où ça me vient, toutes ces douleurs que je sens dans mon corps.
Ah ben moi, je peux vous dire, c'est parce que vous souffrez. Vous voulez pas, vous dites je ne souffre pas et votre corps, il vous dit mais si, je souffre. Il vous parle et vous voulez pas trop l'écouter. Alors je dis pas, ça veut pas dire qu'il faut vous suicider. Heureusement, au contraire, la vie est précieuse, comme vous dites, mais il faut que vous écoutiez votre corps et que vous vous disiez oui, je souffre. C'est pas facile de se faire abandonner par sa famille, de plus avoir de boulot.
Alors, et Anne, moi, je voudrais juste rajouter une chose. C'est formidable. Effectivement, certainement, ce que vous avez pu, le fait d'intervenir comme ça et d'entendre deux psychiatres vous écouter, vous donner des conseils, ça vous a certainement fait du bien. Ça suffit pas, ça ne remplacera jamais une consultation chez un psychiatre. Moi, je peux que vous inciter à y aller. Je vous promets, c'est que la première séance qui vous paraît un peu difficile, que le début, mais après, vous allez vous demander pourquoi vous n'y êtes pas allé plus rapidement. J'espère qu'on vous aura convaincu, vous nous tenez au courant, Anne. Et on va même, je pense, vous trouver des coordonnées de psychiatre à Yaoundé. On va aller jusque-là. Bon courage.
Merci.
Bon courage à vous, en tout cas. Professeur Ouedraogo, juste une dernière question très rapide. Qu'est-ce que vous arrivez à faire en termes de prise en charge?
Alors, il y a deux volets. Le premier, c'est que il faut pouvoir rassurer, en fait, la personne en fonction de l'histoire de la perte d'emploi, que ce n'est pas forcément de sa faute, parce que ils ont souvent tendance à culpabiliser. Et nous avons un travail, n'est-ce pas, d'accompagnement, de soutien psychologique par rapport à cet aspect-là. Et puis surtout aussi, qu'il ne perde pas espoir, parce qu'on peut perdre un emploi et pouvoir en retrouver d'autres.
C'est ça qui est important.
Et puis, il y a, dans certaines situations, une nécessité, n'est-ce pas, d'accompagner, d'améliorer le confort avec un certain nombre de médicaments, parce que la souffrance peut être telle qu'il y a une sorte de qualité de vie qui est un peu dégradée, donc on peut recourir
c'est
à
ça. Des antidépresseurs, entre autres, qui peuvent aider. Voilà. Merci beaucoup, ouais, c'est important de le dire. Professeur Ouedraogo, merci. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie au CHU de Ouagadougou, au Burkina Faso. Professeur Michel Debout, dans votre ouvrage « Le traumatisme du chômage alerte sur la santé de 5 millions de personnes », vous faites d'une part un constat qu'on a largement évoqué aujourd'hui, vous faites des propositions. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour mieux prendre en compte cette santé des chômeurs?
On voit la difficulté pour un certain nombre de chômeurs. Il y a aussi une dimension culturelle dans cette difficulté, mais qui est tout pays confondu, du fait même de l'histoire de la folie et de la psychiatrie dans le champ de la santé. On voit la difficulté à faire la démarche. Or, il s'agit d'être bien clair. Les chômeurs ne sont ni malades, ni tous dépressifs ou incapables. Ils sont en risque. Et quand il y a un risque, on doit développer la prévention de ce risque. C'est vrai pour tous. J'appelle à ce qu'il y ait une santé préventive, une médecine préventive pour les chômeurs, comme il y en a une pour ceux qui travaillent, qu'on appelle justement la médecine du travail.
Et concrètement, cette santé, donc cette médecine préventive auprès des chômeurs, elle se mettrait en place comment ?
Eh bien, il y aurait une consultation obligatoire, comme est obligatoire la consultation d'embauche lorsqu'on trouve un travail. Il y aurait une consultation avec un médecin, soit le médecin du travail de l'entreprise que l'on quitte et qui connaît un peu l'histoire et la personne, soit un médecin généraliste qui peut tout à fait comprendre et aider la personne, soit un médecin de centre de santé. Cette consultation, cette rencontre, la rencontre avec l'autre, le médecin en l'occurrence, représentant la société, représentant l'intérêt que la société porte sur ces personnes. Vous voyez qu'on renverse complètement l'approche du problème. Et à ce moment-là, avec ce médecin et le chômeur, eh bien, construire les réponses et construire les réponses non pas seulement et uniquement médicales, mais les réponses, j'y insiste encore, sociales, associatives. C'est-à-dire que ce chômeur reste pleinement un citoyen, entièrement un citoyen. Il n'est pas un citoyen de deuxième zone. Il est parmi nous.
Et
nous sommes chômeurs.
Insister sur la prévention et mettre en place.
C'est la
système.
Prévention, et c'est pas une prévention spécifique dont je parle. C'est une prévention pour tous et à toutes les périodes de la vie. Faut pas que les chômeurs aient l'impression qu'on va construire quelque chose juste pour eux parce qu'ils seraient à part. Non, la prévention c'est pour tous. Il y a la PMI, ça commence par la PMI.
Protection
après il y a
maternelle
la médecine,
infantile.
La médecine scolaire. Il y a la médecine du travail. Donc la médecine pour ceux qui n'ont pas leur travail. Et puis, j'insiste, ça sera une autre émission, la médecine préventive pour ceux qui sont à la retraite. Car aussi, parfois, ils sont traumatisés.
On pourra effectivement en reparler. Merci beaucoup, professeur Michel Debout. Et alors, docteur Catherine Solano, évidemment, on parle du chômage. C'est un souci personnel, financier pour la famille, le moral. Mais ça peut aussi retentir sur le couple et sur la sexualité. Et évidemment, on avait envie de vous demander quelles sont les relations entre chômage et sexualité.
Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par du positif et dire que des fois, le chômage, c'est très positif pour la sexualité du couple. Et je me rappelle d'une de mes patientes qui me disait... Je me suis trouvée au chômage en même temps que mon mari et c'était une jeune femme qui avait énormément de blocages sexuels et ça s'est débloqué à ce moment-là. Elle me dit mais c'est génial qu'on soit au chômage tous les deux. Comment on va faire quand on va retravailler? Bon, ça c'est une anecdote, mais ça arrive quand même que ça libère des tensions qu'il y avait au travail parce qu'on n'est pas licencié pour rien non plus et qu'il y avait des problèmes en général.
Mais les deux conjoints ne sont pas forcément au chômage au même moment et d'ailleurs heureusement parce que ça peut poser des problèmes financiers.
Oui, voilà. Et donc souvent, évidemment, il n'y en a qu'un des deux qui est au chômage et ça pose des problème souvent dans le couple, parce que celui qui est au chômage, il reste à la maison comme on entendait tout à l'heure notre auditeur à chercher un emploi ou à s'occuper de la maison, et du coup le soir il se trouve plein de l'énergie qu'il n'a pas extériorisée à son travail, et donc il peut avoir beaucoup plus de désirs sexuels et d'envie justement relationnelle, alors que l'autre arrive usé par sa journée de travail et dit au secours, moi je suis déjà fatiguée, en plus il faut avoir un rapport sexuel, ça va pas aller. Donc ça peut poser des problèmes et ça c'est vraiment pas toujours facile.
Alors justement, on a parlé longuement des cas où le chômage n'était pas forcément une catastrophe, mais c'est pas toujours le cas. On a parlé du chômage qui a un impact sur la confiance en soi. Est-ce que justement, quand sa confiance en soi est atteinte, ça peut pas avoir aussi un impact sur la sexualité?
Oui, alors évidemment, il y a énormément de personnes, on en a parlé, qui ont un état dépressif ou qui sont déprimées par le fait d'être au chômage. Et on sait que la déprime ou la dépression diminue le désir sexuel. Donc il y a énormément de personnes qui n'ont plus aucun désir sexuel en étant au chômage à cause de l'anxiété et de la dépression. Et puis il y a aussi quelquefois le conjoint qui déprime, parce que si vous êtes tombé amoureux d'un jeune cadre dynamique qui a plein de projets, puis tout d'un coup vous trouvez et il est en costume cravate, voyez, vous trouvez avec un homme en survêtement qui boit sa bière et qui n'est plus du tout dynamique, et vous ne vous sentez plus amoureux, vous n'avez plus de désir non plus. Donc ça crée des grosses dissymétries dans le couple comme ça.
Et voir son conjoint au chômage, ça peut aussi atteindre justement.
Voilà, justement, ça peut énormément atteindre la personne. Donc la solution, ça serait à ce moment-là de parler ensemble, de parler de ses angoisses, de ses peurs, même de dire mais je te vois comme ça, moi ça me donne plus envie, enfin de tout expliquer plutôt que de chacun s'isoler.
Donc se parler, ça c'est le point important. Voilà, les autres conseils, c'est quoi?
Alors les autres conseils, donc c'est se parler, ensuite c'est garder un rythme régulier des rapports sexuels. Parce que si on commence à espacer beaucoup, on va avoir du mal à se retrouver, donc même si on n'a pas trop envie, il faut essayer de se motiver. Et dernier conseil, essayer de créer du positif ensemble, parce que le chômage c'est du négatif. Et si on réussit à prendre du temps pour faire des choses positives, comme disait un monsieur, aller au cinéma ensemble, se faire des massages, apprendre à danser alors qu'on est au chômage, au moins on va avoir une antidote contre le chômage.
Professeur Michel Debout, juste en deux secondes, ce sont des bons conseils ça?
C'est des conseils essentiels, c'est-à-dire la parole et la relation, la rencontre de l'autre.
C'est important que ce soit en couple d'ailleurs ou pas en couple.
Et
comme tous les jeudis, docteur Solano vous répond à une question d'auditeur. On a Richard qui nous appelle de Libreville au Gabon. Richard, bonjour.
Bonjour docteur.
On vous écoute.
Je viens vous soumettre un cas, c'est-à-dire que j'aimerais avoir vos conseils. Ma partenaire et moi, disons c'est moi l'homme, je n'ai plus de réactions sexuelles envers elle. Je ne sais pas pourquoi.
Et je crois que vous avez vécu quelque chose de très douloureux récemment.
Tout à fait.
Vous voulez peut-être nous le dire parce que ça explique quand même.
C'est-à-dire, on a perdu un gosse, donc depuis là, bon, on n'en revient pas, quoi.
C'est ça, vous avez perdu un enfant qui est mort-né à 8 mois de grossesse. Docteur Catherine Solano.
Oui, alors, ce que je voulais vous... D'abord, je voulais vous dire que c'est très, très fréquent qu'un deuil, quand on perd un enfant, entraîne des difficultés sexuelles. Moi, je pense que c'est souvent parce que le corps se dit « je veux plus faire l'amour » parce que c'est trop difficile de mettre en route une grossesse et de voir que l'enfant peut mourir. Donc, je me bloque, je me mets en grève. Et donc... Donc il faut absolument que vous preniez conscience de ça. Et donc ce que je vais vous conseiller, c'est un petit exercice tout qui va vous paraître peut-être bizarre, mais c'est de parler à votre corps et de lui dire « Mon corps, je sais que tu souffres du départ de cet enfant et je te comprends très bien. Mais tu sais, moi je préfère prendre le risque d'avoir un autre enfant. J'en ai envie même si ça peut être douloureux. Et puis faire l'amour pour moi c'est très important, pas seulement pour faire un enfant, mais parce que aussi j'aime ma femme. Et même sans enfant, j'ai envie que nous restions un couple uni. Et rien que pour ça, faire l'amour c'est valable. Et puis ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est avec votre épouse de faire... un geste, quelque chose pour dire au revoir à cet enfant. Parce que si on n'en parle plus du tout... souvent, c'est très très douloureux. Donc par exemple, je vais prendre un exemple, d'allumer tous les soirs une bougie pendant 7 ou 8 jours en pensant à lui ou en faisant une prière ou quelque chose comme ça. Et puis aussi dans votre maison, d'avoir quelque chose qui vous fasse penser à vous pour vous dire cet enfant, il a existé, on l'aime, même s'il n'est plus là.
Merci beaucoup docteur Catherine Solano. Professeur Michel Leboux, merci. Je rappelle que vous avez publié merci. Le traumatisme du chômage, alerte sur la santé de 5 millions de personnes. Merci beaucoup Richard d'être intervenu. Bon courage à vous. Demain, on parlera des maladies cardiovasculaires et bien sûr, on attend dès maintenant vos questions sur Facebook ou par téléphone.